VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Dakar, 15h à Kigali, bienvenue à notre journal. Au Rwanda, 22 ans après le génocide, les Rwandais se rappellent aujourd'hui de cette tragédie de la fin du XXe siècle qui a fait près de 800 000 morts au pays des mille collines. Le président tanzanien John Magufuli s'est joint à son homologue rwandais Paul Kagame pour la commémoration. Le deuil national s'étendra jusqu'au 4 juillet, date de la fin du génocide. Plus de détails avec notre correspondant à Kigali, Maurice Magorané.
C'est jeudi marqué le début de 100 jours de commémoration du génocide de Tutsi de 1994. Une centaine de journées qui suffirent il y a 22 ans pour qu'environ plus de 800 000 personnes, essentiellement issues de la minorité Tutsi, soient massacrées. Au programme de la journée de la commémoration, le président rwandais Paul Kagame, accompagné par son homologue tanzanien Dr John Magufuli, a le numéro au mémorial de Gisozi à Kigali. Une flamme de deuil qui brûlera durant les 100 jours. Ensuite, une marche de souvenirs et une veillée sont également prévues. Le deuil officiel au Rwanda prendra fin le 4 juillet. Maurice Magolane, VOA Afrique, Kigali.
Au Tchad, 5 leaders de la société civile étaient à la barre ce matin à N'Djamena. Ils sont accusés d'avoir voulu organiser des manifestations interdites. Le point avec notre envoyé spécial sur place, Bagassi Koura.
Il y avait la tension dans l'air ce matin autour du tribunal d'instance de N'Djamena. C'est là que comparaissaient les 5 leaders de la société civile arrêtés fin mars. Le procès s'est achevé vers 11h heure locale. Le procureur a requis 6 mois de prison ferme pour ces 5 activistes accusés notamment de troubles à l'ordre public pour avoir tenté d'organiser des manifestations contre la candidature du président Déby. Le verdict est prévu pour le 14 avril. Plusieurs centaines de jeunes qui s'étaient rassemblés devant le tribunal ont tenté d'empêcher le fourgon de police de ramener les détenus à la prison. Les forces de l'ordre qui quadrillaient le tribunal ont alors usé de gaz lacrymogène pour les disperser. Par ailleurs, la société civile a retiré la semaine dernière ses membres de la CENI, la commission électorale en charge notamment de la présidentielle du 10 avril et la grève générale qui frappe la fonction publique depuis le 26 mars. Se poursuit toujours. Bagassi Koura, N'Djamena pour VOA Africa.
À Djibouti, le premier tour de l'élection présidentielle est prévu demain, vendredi 8 avril. Le président Ismaïl Omar Guelleh est donné largement favori. L'opposant Daher Ahmed Farah, président du mouvement pour le renouveau démocratique et le développement, ne se fait aucune illusion sur l'issue du scrutin. On l'écoute.
La commission électorale nationale indépendante, prévue par l'accord cadre signé entre l'opposition et les régimes le 30 décembre 2014, n'a pas été mise en place. Elle a été totalement rejetée par le régime qui a réactivé sa CENI à lui, de sorte que le résultat de ce pseudo-scrutin sont connus d'avance. Le vainqueur est connu d'avance, c'est M. Ismaïl Omar Guelleh. 2 candidats qui réclament de l'opposition, 3 qui disent indépendants. Ces gens-là se plaignent tous des conditions dans lesquelles cette pseudo-élection se déroulera, comme si c'était une découverte, alors que c'était connu, ça a toujours été de notoriété publique. Il y a en effet plusieurs candidats, mais cela ne fait pas pour autant de l'élection, une élection libre et démocratique. Ce n'est pas parce que tel ou tel participe que cela change quelque chose au fond du problème.
L'opposant djiboutien Daher Ahmed Farah. Par contre, Oumed Daoud, représentant en France de l'Union pour la majorité présidentielle, n'est pas du tout de cet avis et fait plutôt l'éloge du président Ismaïl Omar Guelleh.
Il avait songé à partir, il a répondu à la sollicitation des Djiboutiens, il revient pour achever les œuvres déjà engagées. Nous n'avions pas d'université avant 1999, nous l'avons eu en 2006. 7000 étudiants sont à l'université avec 7 filières de formation. 6500 étudiants quittent chaque année l'université de Djibouti pour arriver sur le marché de l'emploi. Les voies de chemin de fer, les routes, les ports, les infrastructures économiques qui ont été mises en place grâce à la politique économique lancée par le président de la République sont criants. Ce n'est pas du leurre, c'est quelque chose qu'on voit à l'œil nu, monsieur.
Oumed Daoud, représentant en France de l'UMP, parti au pouvoir à Djibouti.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Nouveau gouvernement au Bénin, le premier formé par le président Patrice Talon jusque quelques heures après son entrée en fonction. Ce gouvernement comprend un total de 21 ministres et sa priorité numéro 1 est la réforme de l'administration et des institutions du pays. Jean-Roger Bion.
Pas de temps à perdre, le président élu veut montrer aux Béninois qu'il est déjà à la tâche. Selon le communiqué lu par Pascal Irénée Koupaki, candidat malheureux arrivé cinquième au premier tour de la présidentielle, mais aussi ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République de ce premier gouvernement, 21 ministres, dont 3 femmes, ont la charge d'accompagner M. Talon à réformer l'administration et les institutions du pays, une priorité de l'homme fort de Cotonou. Un autre soutien au président pour sa réélection et qui rejoint son gouvernement, c'est Abdoulaye Bio Tchané, qui avait décroché la 4e place au premier tour. Il hérite du ministère du Plan et du Développement en tant que ministre d'État. Un secrétaire général du gouvernement a été aussi désigné en plus des 21 ministres. Pas de perte de temps non plus. Ils doivent tous prendre service aujourd'hui avant 18h, heure locale, selon la présidence.
En Côte d'Ivoire, les forces nouvelles ex-rébellion ont acheté près de 300 tonnes d'armes et de munitions au lendemain de la crise post-électorale de 2010-2011. Accusation formulée par un groupe d'experts onusiens dans un rapport confidentiel adressé au Conseil de sécurité de l'ONU. Guillaume Soro, le leader des forces nouvelles d'alors et l'actuel président de l'Assemblée nationale ivoirienne, se serait lui-même chargé de l'acquisition du matériel. Mais d'après la presse ivoirienne, Guillaume Soro a rejeté ces accusations. Au micro de John Lyndon, les explications de Paul Léonard Ngoué, expert en relations franco-africaines.
La Côte d'Ivoire a été victime d'un vaste complot dans lequel l'ONU a également à répondre de sa responsabilité. Parce que le secrétaire général de l'ONU, M. Ban Ki-moon, était représenté en Côte d'Ivoire par M. Choi. Depuis 2003, le président Gbagbo avait demandé notamment à l'ONU que des enquêtes soient faites sur des exactions monstrueuses commises par les rebelles. Les rebelles ont été armés, des armes sont rentrées en Côte d'Ivoire par le Burkina Faso, et aujourd'hui celui qui a été victime d'une agression se trouve à la CPI et tous les acteurs et leurs complices sont en liberté.
Un autre rapport, justement celui-là du secrétaire général de Ban Ki-moon lui-même, fait savoir que la situation sécuritaire en Côte d'Ivoire reste stable mais fragile.
C'est de l'humour, je crois, de l'humour noir auquel s'exerce le secrétaire général de l'ONU, parce qu'on peut parler de stabilité. Mais comment peut-on parler de stabilité en Côte d'Ivoire lorsque tous les acteurs, les belligérants de la Côte d'Ivoire, hormis celui qui a été agressé, sont aujourd'hui en liberté et se meuvent librement en Côte d'Ivoire. Nous avons encore appris récemment le séjour de l'ancien président français Sarkozy en Côte d'Ivoire. Nous savons que l'ancien président du Burkina Faso se trouve en Côte d'Ivoire et d'ailleurs il a acquis la nationalité ivoirienne. Nous savons que les responsables de ces forces rebelles sont aujourd'hui au pouvoir en Côte d'Ivoire. Et nous savons que déjà, tiraillements se font entrevoir entre ces différents protagonistes dans la perspective des élections de 2020.
Paul Léonard Ngoué, expert en relations franco-africaines. Crise libyenne maintenant, une conclusion rapide du transfert de pouvoir au gouvernement d'Union nationale s'impose. C'est ce qu'a fait savoir l'émission spéciale onusien pour la Libye, Martin Kobler. La fragile paix dans la capitale libyenne ne pourra pas tenir si le nouveau gouvernement d'Union nationale n'est pas à même de fonctionner, a-t-il averti. Les précisions de Michel Joseph.
L'émissaire Martin Kobler a appelé mercredi le Parlement libyen internationalement reconnu, siégeant dans l'est du pays, à voter pour déterminer s'il appuie le gouvernement d'Union nationale. Faute d'une action rapide, ce Parlement risque de se retrouver marginalisé, a expliqué l'émissaire onusien dans un entretien accordé à l'agence Reuters. Depuis 2014, la Libye est dirigée par 2 gouvernements et 2 parlements rivaux, appuyés par des groupes armés. Formé à la suite des pourparlers sous médiation onusienne et de l'accord signé en décembre, le gouvernement d'Union nationale est arrivé à Tripoli la semaine dernière. Il est chargé de mettre un terme au chaos dans le pays. L'optimisme suscité par son déploiement était tiédi par une annonce mercredi du gouvernement de salut national de Tripoli, entité non reconnue par la communauté internationale. La mesure enjoint au ministre de ce gouvernement de rester en place, contredisant ainsi un communiqué publié mardi, selon lequel le gouvernement de Tripoli cédait la place au gouvernement d'Union nationale.
Pour terminer le conflit en Syrie, environ 250 employés d'une cimenterie sont portés disparus depuis lundi après une attaque du groupe État islamique à Dmeir, une localité à 40 km au nord-est de Damas. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, on craint que ces employés n'aient été kidnappés par l'EI et conduits vers une destination inconnue. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.